Sur votre radio locale, une chronique pour comprendre l'économie avec Max. Max Deleval, bonjour.
Bonjour Laura, bonjour à tous.
La progression des inégalités à l'échelle nationale et internationale suscite un regain d'intérêt pour deux notions, celle des élites et celle de la prédation.
Oui, pendant longtemps, la sociologie s'est surtout penchée sur les conditions de vie et de travail des classes populaires. Pierre Bourdieu a consacré une grande partie de son œuvre à souligner les rapports de domination entre classes en analysant les distinctions prestigieuses qui mènent au pouvoir. Dans le sillage du théoricien de la reproduction sociale émergent les premières enquêtes sociologiques de terrain sur les élites françaises du couple Pinson-Charlot. Ils analysent les lieux de sociabilité et les codes. On y trouve par exemple le Jockey Club de Paris, le Cercle d'Union Interalliée, le Nouveau Cercle, l'Automobile Club de France. C'est dans ces cercles que se constitue un système d'interdépendance entre le milieu des affaires, le monde politique et administratif. C'est un monde majoritairement masculin, quinquagénaire, urbain et hautement diplômé.
Retrouve-t-on ces tendances au niveau international ?
Oui, on peut prendre l'exemple de l'île Saint-Barthélemy dans les Antilles françaises. C'est dans cet endroit que se retrouvent les protagonistes du monde des affaires, européens et américains, et une élite internationale diverse. On peut prendre comme exemple Bill Gates, Larry Ellison de l'entreprise Oracle, Abramovich, Steven Spielberg, George Michael, Brad Pitt et Travolta. Il s'agit d'une forme de privatisation des îles. On peut rappeler l'affaire Epstein, on y retrouve une élite et la prédation. Mais une question demeure. Comment ces élites exercent-elles une influence politique croissante capable de remettre en cause les principes démocratiques?
Et c'est là que la notion de prédateur intervient.
C'est dans la sphère de la science économique que les comportements de prédation connaissent leur analyse la plus poussée. À la fin du 19e siècle, l'Américain Thorstein Veblen voit monter un capitalisme financier violent. Dans la théorie de la classe de loisirs en 1899, il décrit ce nouveau monde, avec ses capitaines d'industrie et ses barons de la finance engagés dans des luttes féroces. Au-delà des choix rationnels, il distingue un instinct du travail bien fait et un instinct de prédation. Dans cette lignée, en 2009, James Galbraith publie un livre, « L'État prédateur », dans lequel il montre que certains pouvoirs publics sont capturés par des intérêts privés dominants afin d'en extraire des rentes. On y retrouve aujourd'hui aussi bien Donald Trump, Vladimir Poutine et Elon Musk, pour ne citer que.
C'est une menace à la fois contre la démocratie, mais aussi contre l'habitabilité de la Terre.
Eh oui, l'Iranien Mehrad Wahabi, professeur à l'université Sorbonne Paris-Nord, a consacré une grande partie de ses travaux à la prédation. Elle occupe une place majeure dans le fonctionnement de l'économie. Ce que les économistes orthodoxes, obnubilés par le marché, l'offre et la demande, néglige la forme développée de la prédation et la domestication. Le prédateur protège la proie, mais peut la tuer quand il veut. C'est la base des empires. C'est ce qu'essaie de faire Poutine en Ukraine, que fait M. Trump au Venezuela, demain avec le Groenland du Cuba, M. Xi Jinping avec Taïwan et en partie avec la Russie. Dans le monde confisqué, l'historien et économiste Arnaud Aurin montre que les comportements de prédation s'accroissent quand les acteurs intègrent l'idée que les ressources sont limitées et les producteurs trop nombreux. Pensé comme un jeu à somme nulle, le système devient alors ouvertement prédateur, violent et rentier. L'actualité nous le confirme. Il suffit d'analyser les conflits actuels. Pour plus d'informations, voir le Monde du 22 janvier 2026 et du 20 mai 2026.
Merci Max pour ta chronique.
À bientôt.
Pour plus de chroniques éco avec Max, rendez-vous sur le www.radiopfm.com.